Chapitre 55. Transformé par la grâce. La vie de l'apôtre Jean est un exemple de véritable sanctification. Durant ses années d'étroite relation avec le Christ, il recevait souvent de lui des avertissements et des mises en garde qu'il savait toujours accepter. À mesure que le caractère du Sauveur se dévoilait à ses regards, il avait conscience de ses propres lacunes et il en était humilié. Jour après jour, son cœur était attiré vers le Christ, jusqu'à ce qu'il en vînt à s'oublier lui-même dans son amour pour son maître. La puissance et la tendresse, la majesté et l'humilité, la grandeur d'âme et la patience qu'il observait dans la vie quotidienne du Fils de Dieu le remplissaient d'admiration. Il abandonna son tempérament irritable et ambitieux au pouvoir transformateur du Christ, et l'amour divin opéra en lui une véritable métamorphose. Quel contraste frappant entre la vie de Jean et la conduite ignominieuse de son compagnon d'œuvre, Judas. Celui-ci prétendait être aussi un disciple du Christ, mais il ne possédait que la forme de la piété. Il n'était pas insensible à la beauté du caractère de Jésus. Convaincu par ses paroles, lorsqu'il l'écoutait prêcher, il ne voulait cependant ni humilier son cœur, ni confesser ses péchés. En résistant à la divine influence, il déshonorait le maître qu'il prétendait aimer. Jean, lui, luttait avec acharnement contre ses penchants, mais Judas étouffait la voix de sa conscience et cédait à la tentation. Il s'ancrait plus profondément dans ses habitudes de faire le mal. La pratique des vérités que le Christ enseignait était en désaccord avec ses plans et ses intentions, et il ne consentait pas à abandonner ses idées pour recevoir la sagesse d'en haut. Au lieu de marcher dans la lumière, il préférait les ténèbres. Il entretenait en lui les mauvais désirs, la cupidité, les pensées sombres et taciturnes, à tel point que Satan le réduisit entièrement en esclavage. Jean et Judas représentent tous ceux qui se disent serviteurs du Christ. Ces deux disciples avaient les mêmes occasions d'étudier et d'imiter le divin modèle. Tous les deux étaient en étroite relation avec Jésus, et ils avaient le privilège d'entendre ses enseignements. Chacun d'eux possédait de graves défauts, et chacun d'eux avait accès à la grâce divine qui transforme la vie. Mais tandis que l'un recevait en toute humilité les instructions du maître, l'autre montrait qu'il ne mettait pas la parole en pratique, et n'en était qu'un simple auditeur. L'un mourait chaque jour à lui-même, et dominant son péché, se sanctifiait par la vérité. L'autre résistait au pouvoir régénérateur de la grâce, et satisfaisant ses désirs égoïstes, était réduite en esclavage par Satan. Une transformation semblable à celle que l'on peut voir dans la vie de Jean résulte toujours d'une communion étroite avec le Christ. Il peut y avoir des défauts accusés dans le caractère, mais lorsqu'on devient un vrai disciple du Sauveur, la grâce divine régénère l'individu et le sanctifie. Le chrétien qui contemple, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur est transformé de gloire en gloire, jusqu'à ressembler à celui qui l'adore. Jean était le prédicateur de la sainteté, et dans ses épîtres, il édicte des règles infaillibles qui doivent servir de ligne de conduite à tous les chrétiens. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur, écrit-il. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Jean enseigne que le chrétien doit être pur dans sa vie et dans son cœur. Il ne saurait se contenter d'une vaine profession de foi. Comme Dieu est saint dans sa sphère, ainsi l'homme, par la foi en Christ, deviendra saint dans la sienne. L'apôtre Paul déclarait « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Cette sanctification de l'Église est le but que Dieu se propose dans tous ses rapports avec son peuple. Du sein de l'éternité, il a choisi ses enfants pour qu'ils soient saints. Il a donné son Fils afin qu'il meure pour eux et que, dépouillés de toute leur mesquinerie, ils puissent être sanctifiés en obéissant à la vérité. Il réclame en retour une œuvre, un renoncement personnel. Dieu ne peut être honoré par ceux qui professent croire en lui que dans la mesure où il reflète son image et se laisse diriger par son esprit. Alors, comme témoins de leur Sauveur, ils feront connaître ce que la grâce divine a fait pour eux. La véritable sanctification s'obtient par la soumission au principe de l'amour. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. La vie de celui dans le cœur duquel le Christ habite sera une manifestation de piété réelle. Le caractère sera purifié, élevé, ennobli et glorifié. La pure doctrine de l'Évangile sera associée aux œuvres de justice. Les préceptes divins se confondront avec les saintes pratiques. Ceux qui désirent parvenir à la sanctification doivent d'abord apprendre ce qu'est le sacrifice de soi-même. La croix du Christ est le pilier central sur lequel repose, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. « Si quelqu'un veut venir après moi, dit le Christ, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » C'est le suave parfum de l'amour pour nos semblables qui révèle notre amour pour Dieu. C'est la patience dans le service qui apporte la paix dans l'âme. La prospérité de l'Église sera assurée par un travail humble, diligent et fidèle. Dieu soutient et fortifie celui qui désire suivre le chemin qui mène au Christ. La sanctification n'est pas l'œuvre d'un moment, d'une heure ou d'un jour, mais de toute une vie. On ne peut l'acquérir par une heureuse effusion de sentiments, mais c'est le résultat d'une mort définitive au péché et d'une vie constante en Christ. Des efforts faibles et intermittents ne sauraient ni redresser les erreurs, ni opérer de réformes dans le caractère. Ce n'est que par un labeur long et persévérant, par une discipline sévère et un dur combat, que nous pouvons vaincre. Nous ne savons pas aujourd'hui quelle sera la sévérité de la lutte de demain. Aussi longtemps que Satan régnera, nous aurons à soumettre le moi, à vaincre nos péchés. Tant que nous vivrons, il n'y aura aucun arrêt dans notre marche chrétienne. Nous ne pourrons jamais dire « j'ai pleinement abouti ». La sanctification, c'est le résultat de toute une vie d'obéissance. Aucun des apôtres, aucun des prophètes ne s'est jamais vanté d'être sans péché. Ceux qui ont vécu le plus près de Dieu, ceux qui ont préféré faire le sacrifice de leur vie plutôt que de commettre une action injuste, ceux que Dieu a honorés de sa lumière et de sa puissance ont reconnu leur culpabilité. Ils n'ont pas placé leur confiance dans la chair, ni mis en avant leur justice personnelle, mais ils se sont confiés entièrement dans la justice du Christ. Ainsi doit se comporter celui qui contemple Jésus. Plus nous nous approcherons de lui, plus il nous sera possible de discerner la pureté de son caractère et de comprendre la nature odieuse du péché, en sorte que nous serons moins que jamais disposés à nous glorifier de notre propre personne. Notre âme soupirera constamment après Dieu. Nous éprouverons au fond de nos cœurs un continuel besoin de confesser nos péchés et de nous humilier devant le Seigneur. À mesure que nous avancerons dans la vie chrétienne, notre besoin de repentance augmentera. Nous apprendrons que nous dépendons du Christ seul et nous ferons nôtre la confession de l'apôtre « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Que les anges enregistrent l'histoire des luttes et des conflits du peuple de Dieu, ainsi que ses prières et ses larmes. Mais que Dieu ne soit pas déshonoré par cette affirmation émanant de lèvres humaines « Je suis sans péché, je suis saint ». Des lèvres sanctifiées ne sauraient jamais prononcer de paroles aussi présomptueuses. L'apôtre Paul, ravi au troisième ciel, avait vu et entendu des choses qui ne pouvaient s'exprimer. Cependant, il affirme « Ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher d'y parvenir. » Que les anges prennent note des victoires de Paul qui combat le bon combat de la foi. Que le ciel se réjouisse de sa marche fidèle vers la cité céleste et que, les yeux fixés sur le but, l'apôtre estime toute considération humaine comme de la boue. Les messagers célestes inscrivent ses triomphes, mais Paul ne se vante pas de ses succès. L'attitude de l'apôtre est celle que devrait adopter tout disciple du Christ, qui court pour remporter la couronne immortelle. Que ceux qui se sentent portés à faire une belle profession de sainteté plongent les regards dans le miroir de la loi de Dieu. Lorsqu'ils verront ces exigences, dont la portée est si étendue, et qu'ils comprendront qu'elles dévoilent les pensées et les intentions du cœur, ils ne se vanteront plus d'être irrépréhensibles. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous, écrit Jean, qui ne se sépare pas de ses frères. Et encore, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons Dieu menteur et sa parole n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il en est qui prétendent à la sainteté, qui disent appartenir complètement au Seigneur et se réclament de ses promesses tout en refusant d'obéir à ses préceptes. Ces transgresseurs de la loi veulent recevoir tout ce qui est promis aux enfants de Dieu. Mais ce n'est là que présomption, car l'apôtre déclare que le véritable amour consiste dans l'observance de tous les commandements. Croire à la théorie de la vérité, faire une profession de foi, être assuré que Jésus n'est pas un imposteur et que la Bible n'est pas une série de fables habilement conçues n'est pas suffisant. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements, écrit Jean, est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Jean n'a pas enseigné le salut par l'obéissance, mais a déclaré qu'elle est le fruit de l'amour et de la foi. « Vous le savez, dit-il, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Si nous demeurons en Christ, si son amour habite dans nos cœurs, nos sentiments, nos actions seront en harmonie avec la volonté de Dieu. » Le cœur sanctifié est en règle avec les préceptes de la loi divine. Beaucoup de croyants s'efforcent d'obéir aux commandements de Dieu. Cependant, ils jouissent de peu de paix et de joie. Cette carence dans leur vie spirituelle provient du manque d'exercice de leur foi. Ils marchent, semble-t-il, sur une terre altérée, dans un désert aride. Ils se contentent de peu, alors qu'ils pourraient demander beaucoup, car les promesses de Dieu sont illimitées. De tels croyants représentent mal la sanctification qui s'obtient en se conformant à la vérité. Le Seigneur désire que tous ses enfants possèdent le bonheur, la paix dans l'obéissance. Par l'exercice de sa foi, le chrétien acquiert ses bénédictions. C'est par elle que toute imperfection de caractère est réformée, toute souillure purifiée, toute faute corrigée, toute perfection développée. L'oraison est un moyen efficace recommandé par le ciel dans le développement du caractère et la lutte contre le péché. L'influence divine qui se fait sentir dans le cœur en réponse à la prière de la foi assure au chrétien tout ce qu'il a réclamé. Nous pouvons demander le pardon de nos péchés et le don du Saint-Esprit. Nous pouvons intercéder pour obtenir un caractère semblable à celui du Christ et la sagesse et la force pour accomplir son œuvre. Tout ce que Dieu a promis, il nous l'accordera. Il nous dit en effet, vous recevrez. C'est avec Dieu sur le mont Sinaï que Moïse contempla le modèle de cette merveilleuse construction où la gloire divine devait se manifester. C'est avec Dieu, dans le lieu secret de la communion, que nous contemplerons le glorieux idéal du Sauveur à l'égard de l'humanité. De tout temps, par la communion avec le ciel, et une révélation graduelle des doctrines de la grâce, se sont accomplis les desseins de Dieu en faveur de ses enfants. La manière dont il nous fait part de sa vérité est illustrée par ses paroles. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Celui qui se place là où le Seigneur peut l'illuminer passe de l'obscurité partielle de l'aurore à l'éblouissante clarté du plein midi. La vraie sanctification signifie l'amour parfait, l'obéissance parfaite, la conformité parfaite à la volonté divine. Nous sommes sanctifiés par l'obéissance à la vérité, et notre conscience est purifiée des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. nous n'avons pas encore atteint la perfection, mais nous pouvons rompre avec notre égoïsme, avec notre péché. De grandes possibilités, des réalisations nobles et saintes, sont à la portée de tous. La raison pour laquelle, de nos jours, beaucoup ne font pas de plus grands progrès spirituels provient de ce qu'ils confondent la volonté de Dieu avec la leur. Ils n'ont pas de lutte à soutenir contre eux-mêmes. D'autres, par ailleurs, réussissent pendant un certain temps à combattre leurs désirs égoïstes, qui leur assureraient une existence facile et agréable. Ils sont sincères et loyaux, mais ils se lassent de fournir un effort prolongé, de mourir tous les jours à eux-mêmes et de vivre dans un trouble perpétuel. L'indolence leur paraît préférable, la mort à eux-mêmes rebutante. Ils ferment leurs yeux appesantis et retombent sous le pouvoir de la tentation, au lieu de lui résister. Les instructions données dans la Sainte Écriture ne permettent aucun accommodement avec le mal. Le Fils de Dieu a promis d'attirer tous les hommes à lui. Il est venu, non pour leurrer l'humanité, mais pour lui indiquer le sentier qu'elle doit suivre, afin d'atteindre les portes de la cité céleste. Nous, ses enfants, devons marcher dans l'empreinte de ses pas et soutenir une lutte permanente avec nous-mêmes, quel que soit le sacrifice que cela demande à notre vie facile ou à nos plaisirs égoïstes, quel que soit le prix de nos labeurs ou de nos souffrances. La plus grande louange que les hommes puissent adresser à Dieu, c'est de devenir des instruments consacrés par lesquels il opérera. Le temps se jette rapidement dans l'éternité. Ne gardons pas pour nous-mêmes ce qui appartient à Dieu. Ne le privons pas de ce que nous n'avons aucun mérite à lui offrir et qui causerait notre perte si nous le lui refusions. Ce qu'il demande, c'est notre cœur tout entier. Donnons-le lui. Il est sa propriété parce qu'il l'a créé et qu'il l'a racheté. Il veut notre intelligence, donnons-la lui, elle est à lui. Il nous réclame notre argent, donnons-le lui, il lui appartient. Vous ne vous appartenez point à vous-même, dit l'apôtre, car vous avez été racheté à un grand prix. Pour le servir, Dieu exige l'hommage d'un cœur sincère, préparé par l'exercice de la foi, qui agit sous l'impulsion de l'amour. Il place devant nous l'idéal le plus noble, allant même jusqu'à la perfection. Le Christ nous demande d'être absolument pour lui en ce monde, comme il est pour nous en présence de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Le voulez-vous, vous aussi? Vos péchés peuvent apparaître comme des montagnes qui se dressent devant vous. Mais si vous humiliez vos cœurs, si vous confessez vos fautes, si vous mettez votre confiance dans les mérites d'un Sauveur crucifié et ressuscité, Dieu vous accordera son pardon et vous purifiera de toute iniquité. Il vous demande de vous conformer en tout point à sa loi. Celle-ci est l'écho de sa voix qui vous dit « Soyez plus saints, oui, toujours plus saints. Recherchez la plénitude de la grâce du Christ. Que votre cœur désire avec ardeur sa justice, par laquelle la parole nous assure que nous obtiendrons la paix pour toujours. Plus votre âme soupirera après Dieu, plus vous contemplerez les richesses incommensurables de sa grâce. Vous entrerez ainsi en possession de ces richesses, qui vous révéleront les mérites du sacrifice du Sauveur, les bienfaits de sa justice, la plénitude de sa sagesse, et, par sa puissance, vous pourrez vous présenter devant le Père sans tache et irrépréhensible.